Bonjour. Elio ouvre le débat une nouvelle fois. On va se demander aujourd'hui si, après la promulgation d'une nouvelle loi climat-résilience, c'était le 22 août dernier, beaucoup étaient en vacances parmi nos compatriotes, et bien pourtant une loi très engageante a été votée par le Parlement. On va se demander si dans l'univers des copropriétés, on va aisément concilier les fins de mois des copropriétaires avec l'évitement de la fin du monde, puisque aussi bien il s'agit là de protéger la planète. Pour mener ce débat, pour répondre à l'ensemble des questions qui se posent, je voudrais accueillir quatre experts, quatre acteurs à des titres différents et les remercier beaucoup. Je fais remarquer d'ailleurs tout de suite que nous avons atteint la parité dans ce débat. Ce n'est pas si fréquent. On y a réussi grâce aux organisateurs. Je salue d'abord Danielle Dubras, qui est la présidente de l'UNIS, syndicat majeur qui rassemble en particulier les syndics de copropriété. Bonjour Danielle.
Bonjour tout le monde.
Je salue à son côté Tanguy Dupont. Il est le directeur de l'habitat collectif d'Elio. Bonjour Tanguy.
Bonjour Henri.
Je salue de l'autre côté de cette salle Estelle Baron. Elle est la directrice des projets de Solia, une grande spécialiste de la copropriété. Et juste à côté d'elle, bonjour Estelle déjà.
Bonjour.
Je salue enfin José de Jean Matteo. Il est un acteur majeur, il représente une enseigne majeure de la copropriété, Procivis, dont l'un des métiers, ce n'est pas le seul, est la gestion de copropriété, le métier de syndic, sous l'enseigne Immo de France. Bonjour José.
Bonjour Henri, bonjour tout le monde.
Alors, quelques mots pour camper le décor. Il faut remonter à 2009-2010, un pays, le nôtre, la France, qui se veut exemplaire en matière de protection de l'environnement, de maîtrise des dépenses d'énergie. Loi Grenelle 1, Grenelle 2, une inspiration qui était celle à l'époque d'ailleurs du président Chirac. Et puis une séquence de 15 ans balisée par un certain nombre de grands moments législatifs ou de débats non seulement nationaux mais mondiaux. C'est la COP21, c'est les engagements de 2015 pour le climat, c'est déjà une loi en 2015 de transition énergétique. Et puis, plus récemment, je le disais en annonce de ce débat, une loi climat-résilience du 22 août 2021 qui, très clairement, cible deux grands univers, celui de la gestion locative et celui de la copropriété. Les deux, on va y revenir, étant en interconnexion. On rappellera que dans nos villes, celle qui nous accueille aujourd'hui par exemple, la ville capitale, mais c'est le cas de toutes les grandes villes, 60% des logements sont la propriété d'investisseurs, c'est-à-dire sont occupés par des locataires. Donc deux univers qui sont évidemment visés par cette loi dont on va beaucoup parler. On rappellera que l'univers du logement et l'univers de l'immobilier en général sont coupables, bien malgré eux, des émissions de gaz à effet de serre. 25% pour l'ensemble des bâtiments et de l'ordre de 15% pour les seuls logements, nos copropriétés résidentielles. Dans cette loi, des obligations pour le parc locatif avec un calendrier, je le rappelle non pas à nos experts, mais peut-être à ceux qui sont moins familiers de ce texte, un calendrier qui va de 2022 pour les logements les moins vertueux, qu'il va falloir rénover sans qu'on ne pourra pas les louer, jusqu'à 2034, et l'objectif de restaurer la vertu énergétique de l'essentiel du parc. C'est plus de 20 millions de logements qui sont visés par cet effort. Pour les copropriétés, un autre choix a été fait par le législateur, ce n'est pas l'obligation, sous peine, comme pour les logements locatifs, d'être sanctionnés, mais c'est la forte incitation. Avec des outils mis à disposition, outils diagnostiques, outils de programmation des travaux, outils aussi pour favoriser l'épargne des copropriétaires. Voilà, donc deux choix de méthode faits par le législateur, mais en tout cas un texte extrêmement impliquant pour les copropriétés. Le rouge est mis, et pas seulement celui de ma cravate, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on va, au cours de ce débat, on est ensemble pour presque une heure et demie, Vous verrez que ce n'est pas trop pour l'ensemble des questions à examiner. On va parler de droit, on va parler d'argent, de financement, bien sûr, on va parler de pratiques professionnelles, celles des syndics de copropriété. On va prendre le pouls de l'opinion, c'est-à-dire qu'on est allé dans la rue, on a fait des micro-trottoirs pour faire réagir, alors ça ne vaut pas un sondage, et on a aussi d'ailleurs des sondages pour éclairer notre réflexion. J'envoie tout de suite le premier micro-trottoir, on va faire s'exprimer un propriétaire bailleur qui réagit à cette future interdiction de louer si on n'engage pas les travaux nécessaires. On y va.
Que pensez-vous de l'interdiction de location des passoires énergétiques ?
Eh bien, j'en étais informée par l'agence qui gérait effectivement la location de l'appartement. Et c'est bien pour ça que j'ai pris la décision effectivement de le mettre en vente. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a trop de contraintes, sans aucune information autour. Donc voilà, pour moi, c'est le sujet devient de plus en plus complexe, sans information. Donc voilà, moi j'aime les choses simples, claires, on m'informe, je prends une décision. Aujourd'hui, je n'ai pas d'information, c'est compliqué, je vends.
Alors, je disais, le rouge émis, l'illustration est parfaite. On a là quelqu'un qui, propriétaire bailleur, copropriétaire bailleur dans l'un de nos immeubles collectifs, lisant ses nouvelles obligations légales, préfère se retirer, sortir du jeu. Voilà. Et qui est une femme qui est prête à vendre ce logement locatif, à sortir de la copropriété dans laquelle elle avait investi. Pourquoi aujourd'hui ce retard de la copropriété privée et est-ce qu'on va arriver à le combler ? Est-ce que cette priorité donnée par l'État est réaliste aujourd'hui ? Est-ce que le calendrier qui est installé est réaliste ? Daniel Dubrac, au nom des syndics de copropriété, José pourra s'exprimer aussi tout au long du débat à ce même titre, est-ce que ce qu'on appellera l'industrie immobilière, l'ensemble des acteurs, ce sont les syndics, mais ça va être aussi les entreprises, hein, toute la chaîne des entreprises en bâtiment qu'il va falloir solliciter. Est-ce que l'appareil de production, l'appareil de service est prêt ? Est-ce que ça va pouvoir se faire dans les délais impartis ? On a entendu beaucoup de réserves hein, pendant la construction de la loi. Vous avez mis des réserves, la loi est là aujourd'hui. Est-ce que vous vivez, au nom de vos consoeurs et de vos confrères, cette loi comme une opportunité de démontrer votre rôle, d'être mieux reconnu ? Est-ce que vous vivez ça comme une contrainte irréalisable ? Est-ce que vous craignez pas même d'être dans le syndrome du messager ? C'est-à-dire que vous allez, auprès des copropriétaires, déjà apporter l'information précise sur les contraintes, et deuxièmement, vous allez être le bras armé pour les faire décider. Est-ce que votre image, à l'inverse d'être restaurée ou valorisée, ne peut pas en pâtir ?
D'abord, nos métiers sont des métiers qui vont informer et qui vont conseiller pour que la décision de rénover, puisqu'on est en train de parler de ça, soit prise au bon moment. Et donc, pour prendre une décision, il faut pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on la prend, comment est-ce qu'on va la financer, comment est-ce qu'on va la planifier. La loi climat et résilience, elle est là. On a beaucoup lutté sur le calendrier. Le calendrier 1er janvier 2023 et nous inquiète, évidemment, puisque ça, c'est complètement, ça nous paraît irréaliste. Mais on a informé. Et donc, comment faire pour que cette contrainte soit considérée comme quelque chose qui va être faisable, puisque c'est quand même une contrainte, vous l'avez expliqué, il y a des grands enjeux, les enjeux de la neutralité carbone, les enjeux du dérèglement climatique, il y a des objectifs de développement durable qui sont édictés par l'ONU, la lutte contre l'inégalité sur le climat, on a quand même des problèmes au niveau du climat, de la consommation d'énergie, l'énergie coûte de plus en plus cher, on l'a vu, on l'a entendu récemment, et puis aussi de la préservation de la planète. Une fois qu'on a dit ça, il va bien falloir faire des diagnostics, il va bien falloir faire comprendre que cette contrainte va être une opportunité. Et donc c'est vrai que informer, sensibiliser, nous, au niveau de notre syndicat professionnel, on a des promoteurs rénovateurs, on a des gestionnaires, on a des transactionnaires, on a des syndics de copropriété, donc toute la chaîne est impactée. Puisqu'on a l'histoire du diagnostic de performance énergétique, déjà, dire à chacun des propriétaires qu'ils aient une maison individuelle, un logement individuel ou un logement dans un habitat collectif, déjà calculer son étiquette pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, avec toutes les discussions qu'il y a sur le DPE actuellement, mais au moins savoir où il en est. Après, passer par un professionnel, cette dame disait quand même qu'elle était passée par un professionnel, pour savoir qu'est-ce qu'elle va avoir comme aide, une aide individuelle, une aide collective. C'est pour ça d'ailleurs que le partenariat avec Elio est extrêmement intéressant, parce qu'on a des gens qui connaissent tous les dispositifs. Alors évidemment, la réglementation change du jour au lendemain. On est très alerte sur les lois de finances, parce que des aides qui sont prévues à un instant donné
sont... On va parler des aides très précisément tout à l'heure.
Donc voilà, c'est cette opportunité, c'est une contrainte. Comment faire passer le message? Parce que c'est une contrainte, c'est une obligation de faire des travaux, de diminuer les gaz à effet de serre, de faire des économies d'énergie. Et donc, on doit être dans un ensemble collectif sur ce sujet.
Une question, je mets les pieds dans le plat, Daniel. Dans votre profession, il n'y a pas de climato-sceptique. Il n'y a pas, j'entends des choses en ville, comme on dit. Il n'y a pas certains de vos confrères qui disent, allez, on va attendre un prochain président de la République ou une prochaine présidente. Tout ça, ça va être remis en question parce que ce n'est pas réaliste. Il y a une autre option qui est de ne pas faire. J'entends pas ça dans votre propos. J'entends l'inverse. En tout cas, vous dites le syndicat, majoritairement, il est dans le mouvement.
On s'informe,
on n'a pas le choix.
On s'informe et on se forme, mais on voit bien que l'énergie coûte de plus en plus cher. On voit bien qu'il faut du confort aussi aux gens. On n'est pas que dans des logements insalubres ou des logements indignes à l'occupation. Donc le syndicat, non, il est tout à fait en face par rapport à cette neutralité carbone auquel on doit aller. Enfin, on est des gens réalistes. Après, le côté « je vais faire des économies » l'a souvent emporté auprès de nos usagers, nos locataires, nos copropriétaires, parce que je vais faire des travaux, donc du coup, je vais faire baisser la facture. Mais maintenant, il y a une prise de conscience sur le côté climatique, l'enjeu climatique. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui est passé depuis quelques années. Peut-être que c'est à cause des jeunes.
Il y a eu un progrès.
Voilà, il y a les éco-gestes, il y a des petites choses. Et puis après, avec le Covid, il ne faut quand même pas l'oublier, ça a rapproché un peu les gens de leur logement, qui est devenu un lieu de loisirs, un lieu d'habitat, un lieu d'école. Et donc, du coup, peut-être tout ce qui était difficile dans le logement a fait qu'il y a eu une prise de conscience sur les circuits courts, etc. On est quand même dans une sobriété aussi qui, à mon avis, a été peut-être un peu plus accentuée à cause du Covid aussi.
Et parmi les copropriétaires, on va y revenir plus précisément, vous dites que c'est la même chose, que vous avez face à vous, plus majoritaire, il y a de tout. Mais vous voyez un progrès? Vous voyez un progrès dans les âges de copropriété?
Une copropriété, c'est une société civile, hein, donc il y a de tout, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis, on est dans des luttes de voisinage et dans des luttes d'influence. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire les travaux et qui vont trouver des tas de bonnes raisons pour ne pas les faire, alors qu'en leur fort intérieur, ils savent qu'ils vont le faire. Donc, non, on a un petit peu de tout, bien sûr. Mais les professionnels sont des professionnels qui sont informés, qui sont sensibilisés et qui sont là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est ça.
Et vous êtes allé jusqu'à signer un engagement, d'ailleurs, hein, il y a une année, avec l'autre grande organisation professionnelle.
Absolument.
50 000 copropriétés
en moins de 3 ans, en commençant par les audits énergétiques, par le bilan. Avant, c'est comme aller chez un médecin. Pour savoir si on est malade, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a comme symptômes, ensuite le diagnostic et ensuite la posologie.
Bon, mais j'entends.
En est sur l'audit.
J'entends de l'optimisme. On va approfondir tout ça, mais ça me va bien. Alors, Tanguy Elio a été cité par la présidente de l'UNIS à l'instant. Je parlais de préparation, peut-être d'impréparation de la filière. D'abord, est-ce qu'il y a une filière? Est-ce qu'elle existe? Bon, on voit bien qu'il y a des partenariats qui s'installent, qui s'improvisent. Enfin, il faut bien que tout cela se mette en place. Est-ce que c'est suffisamment huilé? Est-ce qu'on a une vraie solidarité de l'ensemble des acteurs? Est-ce qu'ils sont tous présents au rendez-vous de cette histoire, que ce soit votre société, je parle des entreprises en bâtiment, quelle que soit leur importance, et bien sûr, je parle des gestionnaires professionnels.
Oui, alors si on part de... Je vais revenir un peu sur ce que vous disiez. Alors d'abord, il n'y a pas de climato-sceptique dans notre cœur de métier.
Bah déjà, c'est difficile à dire, c'est que vous ne l'êtes pas. Hein, si vous n'y arrivez pas...
Exactement, je ne le dis pas assez. Donc ça c'est un premier point, et je rejoins tout à fait Madame Dubrac, et j'en vois de moins en moins, et j'en vois même quasiment pas, alors peut-être que c'est pas ceux qu'on rencontre le plus, mais chez les syndics, où je vois que la profession a envie de se sensibiliser, ou même l'est déjà, et a envie d'avancer vers ça.
Il y a
ça.
Des effets de génération, vous êtes jeune, enfin, c'est le sentiment que j'ai en voyant votre visage, bon, dans une société comme la vôtre, il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes, il y a des effets de génération, où vous dites aujourd'hui, un copropriétaire de 60 ans a la même sensibilité, un syndic qui a 30 ans d'expérience, il a la même sensibilité, il est converti.
Je pense qu'il y a des effets de génération, effectivement. On le constate tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus. On le constate quand même qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées, que souvent des personnes jeunes ont baigné un petit peu plus dans l'écologie, dans les enjeux écologiques globaux. peut-être qu'ils se renseignent plus aussi. Donc effectivement, on le constate. Et il y a de plus en plus de jeunes aussi dans les copropriétés. Donc on voit qu'ils s'investissent dans le conseil syndical, qu'ils s'investissent sur la rénovation de leur logement. Donc c'est quelque chose, oui, qu'on constate. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes plus âgées dans les copropriétés sont climato-sceptiques. On a énormément de copropriétés qui s'engagent. Et pourtant, les conseils syndicaux, généralement, même s'il y en a quelques-uns, c'est pas les plus jeunes de la résidence. C'est plutôt des personnes qui ont toute l'expérience de la copropriété.
Qui ont plus de temps, souvent, qui peuvent être retraités.
Ouais, exactement, exactement. Et donc, pour continuer là-dessus, il y a toute cette filière donc, chez les syndics de copropriété et chez les administrateurs de biens. Et puis, il y a toute la filière, effectivement, professionnelle. Donc les auditeurs, les bureaux d'études thermiques et puis ensuite les entreprises de travaux aussi qui existent, on ne peut pas dire le contraire, qui font leur travail et qui à mon avis croient à tout ça et ont fait le travail ces dernières années aussi de se développer et de croître comme on l'a fait par exemple chez Helio ou chez d'autres confrères pour accompagner les copropriétés. Mais c'est certain qu'il y a aujourd'hui un enjeu qui est encore plus grand, notamment avec des rénovations qui passent un petit peu des rénovations par geste qu'on avait jusqu'à maintenant à des rénovations globales qui vont arriver et qui doivent arriver très rapidement. Et c'est certain qu'il y aura des difficultés à la fois à avoir des professionnels qui soient compétents, qui soient formés. Et ça, c'est tout notre métier aussi chez Helio.
Alors, on va retourner dans la rue et on va entendre un copropriétaire. On va voir si votre optimisme est partagé. On va voir, alors cela dit, Tanguy vient de parler de complexité, c'est peut-être ça qui aujourd'hui est retenu par les copropriétaires. Ils ont peut-être le sentiment que ce n'est pas si simple. On y va.
Engager des travaux de rénovation énergétique, une démarche complexe.
Je vois toutes les arcanes de l'administration, c'est une version Astérix, hein. Vous allez du bureau A au bureau C, du bureau C au quatrième étage, au dizaine sous-sol, vous dites « ouais, ça va, quoi, allez, vite, je dégage, terminé, voilà, un petit peu. » À part ça, tout va bien.
Il y a une prime qui s'appelle Prime Rénov, qui permet aux propriétaires de, effectivement, qui aide les propriétaires pour financer des travaux d'économie d'énergie. Mais alors, faut-il sortir de Polytechnique ou de Saint-Cyr? Moi, je pense que j'ai un cerveau assez bien fait, mais c'est incompréhensible. J'ai été sur le site du gouvernement. C'est un déroulé incompréhensible en différents, effectivement, paragraphes de chiffres. Voilà. Donc, je suis rentrée, j'ai déroulé et je suis sortie. Et je ne sais toujours pas.
Bon, très intéressant. On voit qu'il y a un certain degré d'information. Et puis, derrière, une certaine exaspération face à la complexité, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si autour de la table, je disais qu'il y a des experts, je ne sais pas s'il y a des énarques ou des cirards, mais en tout état de cause, cette dame pense qu'il faut des têtes très bien faites pour comprendre ce qui se passe. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a aussi très clairement des sondages, non seulement du verbatim, comme on vient d'en écouter, mais qui vont éclairer notre réflexion. Et je propose que on regarde les résultats du tout premier. On va demander très largement à des copropriétaires s'ils identifient des freins au sein de la copropriété pour faire voter des travaux de rénovation énergétique. Et quels sont ces freins? Alors, je vous laisse découvrir les résultats. On constate que très massivement, la question de l'argent se pose et que les trois quarts des copropriétaires interrogés considèrent que les travaux coûtent non seulement cher, mais trop cher. On voit juste après, c'est évidemment l'écho de ce qu'on vient d'entendre, que la complexité administrative pour l'accès aux aides est excessive. Et puis il y a la question, alors est-ce qu'on apprécie là le droit, les règles du jeu, la loi de 65 qui régit la copropriété? Sûrement. En tout cas, les processus de décision prennent trop de temps, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a peut-être une impatience chez certains copropriétaires, tant mieux. Et puis arrivent deux items, mais largement en recul par rapport au précédent. Le temps des travaux, le temps technique des travaux, c'est un reproche qui est fait par un copropriétaire sur six. Et aussi, mais c'est lié, le côté anxiogène de faire des travaux, parce que on ne sait pas peut-être si la performance sera atteinte ou si y a aussi les nuisances évidemment liées aux travaux. Voilà pour le premier sondage. Alors, cette difficulté économique, c'est ce qui ressort très massivement. Hein, c'est l'item à l'avant sur les quatre autres. On rappellera que le gouvernement n'a pas négligé d'examiner la question financière et a confié au numéro 2 de la Caisse des dépôts, hein, Olivier Sichel, il y a maintenant quelques mois, un rapport sur le financement de la transition environnementale. Donc une prise de conscience qui est claire. Alors le rapport d'Olivier Sichel a été très, très précis, hein, il est allé jusqu'à estimer, chiffrer ce que la transition environnementale coûterait dans un logement en copropriété et aussi dans l'habitat individuel, avec deux chiffres. Alors, bon, qui sont des calculs, hein, intermédiaires. On parle de 40 000 euros en moyenne pour pouvoir remettre à niveau une maison individuelle. Et dans l'univers de la copro, qui est aujourd'hui notre sujet, 15 000 euros, j'entends de la part d'un certain nombre de syndics, mais je vais faire réagir et José de Jean-Mathéo et Daniel, que ce serait un peu court. En tout état de cause, il faut peut-être avoir un autre chiffre en tête. C'est l'autre jour le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière qui disait que c'était 600 milliards d'euros qu'il faudrait exposer, hein, de dépenses pour remettre à niveau les copropriétés privées. Voilà. Alors quand on regarde l'unité, 15 000 euros, peut-être plus, quand on regarde l'addition globale, c'est assez vertigineux rapporté à un budget domestique ou rapporté à la richesse de la nation, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que l'État, on a parlé des aides aussi, hein, il y a une conscience de la part des copropriétaires, est-ce que l'État fait assez? J'ai en tête des demandes que Daniel avait faites sur ce sujet, on va y revenir. Est-ce que les outils existants, alors on a parlé de MaPrimeRénov', c'est pas la prime rénov', c'est MaPrimeRénov'. Cette dame écorchait un peu le nom de cette aide puissante. Est-ce que c'est une aide suffisante? Est-ce que les certificats d'économie d'énergie, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que c'est, mais on va y revenir. Est-ce que ça suffit? Alors, je me tourne assez naturellement sur ces questions vers Tanguy une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les aides existantes, leur degré de connaissance, leur puissance ou leur insuffisance?
Alors, ce qu'on peut dire, alors déjà c'est MaPrimeRénov', oui, et c'est MaPrimeRénov' même copropriété, donc qui est vraiment spécifique à la copropriété et qui existe depuis la fin de l'année dernière, début de l'année, et puis avec un petit temps de mise en marche.
C'est vrai que c'est très compliqué, quand on écoute les copropriétaires, alors je ne sais pas s'ils ont peut-être des syndics qui ne leur expliquent pas assez, j'en sais rien.
Par rapport à ce qui a pu exister, c'est relativement simple, même s'il y a des systèmes de bonus, etc., mais MaPrimeRénov' copropriété, si je le résume en deux mots, c'est 25% du montant des travaux pris en charge si on atteint 35% de gains énergétiques dans le cadre d'un bouquet
alors,
de travaux.
C'est important la deuxième partie de la phrase. Hein. Ça veut dire qu'on vise une performance, qu'il faudra attester.
Qu'il faudra attester, qui est calculée selon des normes qui sont données par l'ANA et qui doivent être respectées par un bureau d'études thermiques avec des qualifications, etc. Donc ça, c'est la partie MaPrimeRénov' copropriété, donc, qui est relativement nouvelle. Donc de dire aujourd'hui si c'est suffisant, si ça fonctionne, etc., ça semble un petit peu compliqué. À cela se cumulent effectivement les certificats d'économie d'énergie, qui existent déjà depuis plus de 10 ans et qui sont utilisés, mais qui ont toujours plutôt favorisé des monogestes de rénovation énergétique.
Il y a eu plusieurs programmes, plusieurs générations
de certificats. Il y a eu plusieurs programmes, il y a eu des coups de pouce, et il y a depuis longtemps des fiches sur la rénovation globale, la rénovation performante,
d'accord,
avec déjà des objectifs de gains énergétiques qui n'étaient pas ou peu utilisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les incitations financières n'étaient pas plus intéressantes que faire du geste par geste. Et finalement, pour une copropriété, c'est toujours plus simple d'y aller au fur et à mesure et de ne pas voter d'un seul coup un gros programme de travaux.
En deux mots, comment ça marche ces certificats d'économie d'énergie? Je pense que c'est la moins connue des aides. C'est pour ça que je vous demande en deux phrases d'y revenir. C'est un chèque que je reçois ou est-ce que je vais acheter, je ne sais pas, une chaudière et elle va être moins chère parce qu'il y aura un ticket modérateur? Comment ça marche?
Alors, en deux mots, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en deux mots, c'est porté par le secteur privé. Donc c'est une obligation qui repose sur les fournisseurs d'énergie.
Qui sont les coupables?
Qui sont les fournisseurs d'énergie,
voilà,
qu'on appelle les obligés.
Voilà.
Donc ils ont on pourrait appeler ça une dette à payer puisqu'ils doivent financer la transition énergétique.
Ils doivent se racheter.
Voilà, c'est on pourrait dire ça. Il voilà. y a des similarités avec la taxe carbone. Et donc ils doivent financer la transition énergétique.
Avec la Bible aussi.
Et donc ils doivent verser des aides pour des travaux de rénovation énergétique. Et ce qui est en train de se passer dans les certificats d'économie d'énergie, qui rejoint assez bien MaPrimeRénov' copropriété, c'est que toutes les aides monogestes sont en train d'être moins incitées pour mieux inciter des travaux de rénovation performante également. Et donc, ils se sont alignés en plus avec MaPrimeRénov' copropriété, le fameux 35% pour les copropriétés, est vrai aussi dans les certificats d'économie d'énergie avec à peu près les mêmes conditions d'attribution des primes.
D'accord.
Donc, on arrive en plus des 25% de ma prime Rénov' copropriété, à une prime C2E qui, selon certains critères, peut être à 10%, 20% du montant des travaux, en plus de ma prime Rénov'.
D'accord. Alors, on va aller dans la réalité des copropriétaires. José de Jean Matteo, Immo de France, c'est une enseigne nationale importante, parce qu'on parle aujourd'hui de tous les territoires, hein, voilà. Quelle que soit leur sociologie, toutes les régions n'ont pas la même richesse. Bon. Quand on a cette vision panoramique sur la gestion de copropriété de manière très concrète, très, très opérationnelle, est-ce qu'on peut dire que on a trouvé les bons arguments pour convaincre les copropriétaires? Alors, Daniel Dubrac disait, il y a une sensibilité majorée aujourd'hui à la protection de la planète, arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que, voilà, on sent cela? La réduction de la facture, on en a beaucoup tiré argument. Moi, je me rappelle les propos de Jean-Louis Borloo à l'époque. Hein, les grandes fédérations, lui, ça en faisait partie, avaient signé des accords et on voulait faire baisser la facture. On pensait que ça convaincrait. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la valorisation, la valeur verte, on va l'appeler comme ça, on l'appelle comme ça dans les bureaux depuis longtemps, est-ce qu'elle existe dans le résidentiel? Est-ce que d'autres arguments peuvent porter? On peut penser au confort peut-être de vie aussi. Voilà, qu'est-ce qui se passe et est-ce que les arguments compensent l'effort financier qui va quand même rester après l'utilisation des aides?
Alors, tout ça est vrai. Tout ça se combine aujourd'hui. C'est-à-dire l'incitation personnelle à réduire sa consommation ou en tout cas à réduire son impact sur la planète existe. Son incitation à vouloir réduire sa facture avec l'augmentation du prix de l'énergie existe. Tous ces arguments, tous ces éléments se combinent aujourd'hui d'une façon disparate, d'une façon diverse en fonction des sensibilités. Je reboucle sur les thématiques sur lesquelles nous étions dans les questions antérieures. Il en reste une mesure, c'est l'effort financier et ce que aujourd'hui les copropriétaires doivent s'acquitter et cette prise de conscience.
Le reste à charge, on peut dire ça. Charge, hein.
Voilà. Ouais. Alors, au-delà de la présentation des aides et de cet accompagnement, qui, vous l'avez vu, n'intervient de plus en plus que quand on fait des travaux très importants, c'est-à-dire une rénovation globale, ce qui est un peu anachronique par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les copropriétaires et les copropriétés aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a très peu de travaux. On est dans un court-termisme du copropriétaire qui reste 7 ans. On est dans une situation où on veut réduire son budget dans l'immobilier, où on a des sollicitations de ci, de là. On est à la lisière d'une crise que nous avons tous en tête. Et bien, à ce moment-là, on demande à quelqu'un qui marche à quatre pattes de faire un 100 mètres et de battre Usain Bolt. C'est un peu compliqué.
Parce qu'on part de loin.
Parce qu'on part de très loin. Il faut apprendre à marcher pour commencer ensuite à courir et aller plus loin. Et on est guidé en cela par la loi, celle que tu as évoquée tout à l'heure, celle sur laquelle on a beaucoup travaillé, les 30 mesures pour lutter contre la dégradation des copropriétés qu'avait commis Procivis, Lab, et dans lesquelles un bon nombre d'entre nous étions présents, dans les réflexions tout du moins.
Qu'est-ce que c'est? C'est un think tank, Procivis, Lab?
Oui, c'est un think tank, c'est ça. On a travaillé ensemble sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'on avait apporté le plan pluriannuel de travaux, l'obligation de proposer des financements en même temps que des travaux. Ces mesures-là sont d'août dernier pour le plan pluriannuel de travaux,
oui,
et de juillet de l'année d'avant pour l'obligation de financement. Donc ça veut dire que c'est très frais. C'est pas du tout, et si vous vous souvenez, entre juillet de l'année antérieure et aujourd'hui, il y a eu des confinements, des difficultés, des AG qui sont passés à autre chose. Donc la pédagogie...
Ça a été une année blanche avec l'impossibilité de réunir les assemblées générales physiquement, il s'est passé quand
sûr,
même. La vie a continué en copropriété. Mais est-ce que ça a été une année blanche? Je demanderai l'avis de Daniel aussi.
Procivis Lab avait été sollicité pendant le premier confinement sur éviter l'année blanche. Et nous avions fait des propositions qui bouclent sur la réponse que je voulais vous faire. C'est de fait embarquer tous les travaux qui sont déjà dans le pipe, qui sont déjà dans les projets, qui sont déjà préparés dans les copropriétés. Les verdir, c'est-à-dire passer d'un ravalement à un ITE, enfin, c'est-à-dire une rénovation énergétique par l'extérieur, passer d'une modification de la toiture à une isolation. Ça, c'est un effort qui est à la mesure, qui est très facile à faire. Et on avait proposé...
Donc, c'est pas la politique des petits pas?
Ben, c'est celle où on apprend à marcher. C'est celle où, tout simplement, on a une capacité financière à faire face. c'est celle juste de la réalité dans laquelle se trouvent les habitants et ceux court-termistes. C'est-à-dire qu'un effort mesuré peut être fait par quelqu'un qui va vendre dans les 2 ans, parce qu'il va changer, mais qui ne sera pas réalisable s'il doit faire 3-4 fois plus d'investissement dans son bien.
On parlait d'âge tout à l'heure. C'est vrai aussi qu'on peut se dire quelqu'un qui, par l'âge, a une moindre perspective, hein, faut dire les choses comme elles sont, peut préférer une plus grande modestie, on va dire, dans le.
Oui,
dans
mais
le,
la situation, la situation financière pourrait venir compenser ça. Je veux dire par là que
exact.
Le jeunisme n'a pas.
Exact.
Enfin, je pense pas que. Enfin, bien sûr, j'ai un avis, mais le jeunisme n'a pas son sens là. On est confrontés tous, quels qu'ils soient. Et personne âgée a aussi des petits-enfants, des enfants, et la préoccupation qu'ils ont pour les uns et pour
de
les autres.
De transmettre le bien,
et
d'accord.
Non, de leur vie à futur, dans de bonnes conditions et premières. Ils n'ont pas fait ça que pour mourir, ils ont fait ça aussi pour survivre avec eux. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait proposé à ce que ma prime rénov se déclenche à 20%, pas à 30%.
Là, on parle de 35%
voilà,
de performance.
On proposait qu'elle se déclenche à 20%.
Ça manque de, pour toi, ça manque de réalisme.
C'est juste un
c'est
peu trop
exigeant.
Loin. C'est le pont trop loin. Le mieux... Et quelquefois, l'ennemi du bien, on en parlait juste avant la réunion, eh bien ça s'applique là.
On retiendra cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien.
C'est le pont trop loin. On sait tous que, bien sûr qu'on voudrait un 100% de la rénovation, mais apprenons à marcher, et le plan pluriannuel de travaux est un guide pour ça.
Il est décennal, on le rappellera. Hein.
Ben, ça veut dire
c'est
que dans les 10
ans.
Sur les 10 années qui viennent, je pourrais coordonner ces étapes, parce que financièrement, je pourrais y faire face. C'est juste que, prenons la situation inverse. Je force, j'incite, je contrains. Quelle est la situation à l'arrivée ? Ben, c'est des situations de copropriétaires avec des impayés, des situations contentieuses, des copropriétés qui vont petit à petit se dégrader parce que les services ne vont pas pouvoir être assumés. Le cercle de la dégradation, celui contre lequel on veut lutter, est le plus important à mon avis.
Alors on va y revenir tout à l'heure, on va y revenir parce qu'on va parler de l'approche sociale et on va le faire en particulier avec Estelle.
Il se pose dans la réalité de la situation financière de ces personnes qui, aujourd'hui, face à l'augmentation du prix de l'énergie, de l'essence, ne vont pas pouvoir consacrer... ils ne vont pas pouvoir, tout simplement.
Alors c'est vrai que depuis, depuis le vote qui a duré de nombreux mois de cette loi, il s'est passé des choses et qu'on voit aujourd'hui une conscience que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant. C'est une crise sociale qui sort, hein, clairement.
Alors, la proposition qu'on avait faite de réduire, parce que je la termine, réduire à 20% l'attribution des MaPrimeRénov, copro, et de financer 30% des travaux. Vous voyez que c'est deux mesures qui, si je fais des travaux classiques et que je rajoute de la rénovation, je vais avoir, allez, un peu plus que 30, mais grosso modo, cette rénovation pourra être financée. Le plan de relance en Allemagne a beaucoup plus été polarisé sur le verdissement des copropriétés que ce ne l'a été chez nous. Il faut en prendre la mesure et la volonté.
La question de la valorisation du bien, est-ce que c'est un argument Daniel, on a entendu, et c'est vrai qu'on en parle moins, réduction de la facture, ce n'est pas une contrepartie suffisante. Bon. Quand on voit les efforts qu'il va falloir faire, le reste à charge, et qu'on dit « mais vous allez baisser votre facture peut-être de 20 ou 25 %», ça ne suffit pas. La valorisation du bien, est-ce que c'est un argument qui porte? Est-ce que les copropriétaires aujourd'hui, on peut faire jouer cette corde sensible en leur disant « oui, vous allez non pas dépenser, mais investir en fait, et valoriser votre bien individuel et naturellement aussi l'immeuble collectif ».
On s'emploie à faire comprendre ce que veut dire valeur verte d'un bien, c'est-à-dire au-delà de la valeur vénale, la localisation du bien, les services autour du bien.
Oui.
Là, c'est vraiment le fait, la qualité finalement du logement dans lequel on va habiter, une qualité qui soit une qualité liée à l'environnement, mais aussi au confort. On parlait de vieillissement de la population, donc ils seront bien contents que le logement soit bien confortable à cet effet. Donc oui, la valeur verte, c'est quelque chose dont on fait la promotion, parce que ça a à la fois cette valorisation financière, mais aussi une valorisation par rapport aux aspects d'écologie. Sur les problèmes de financement, on a parlé de MaPrimeRénov. En copropriété, c'est quand même pas trop encore déployé. Il faudrait que tous les copropriétaires y aient droit à cette prime. En l'occurrence, les locaux commerciaux, de façon un peu plus incitative que ça n'est aujourd'hui. Il y a aussi le financement, le reste à charge. Et là, on a parlé du rapport Sichel, où il y a des tas de préconisations. Mais si vraiment...
Les 15 000 euros, ils sont réalistes, Daniel ?
Suffisant. 10 000 pour une classe F, mais plutôt 20 000 pour une classe G.
C'est
quoi.
Un
voilà. Non, non.
D'accord.
Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Plutôt 20 000 que 15 000, allez. Mais ceci étant, donc, trouver des emprunts communs dans l'habitat collectif, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le propriétaire bailleur privé dans l'habitat collectif qui nous pose problème. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a de la réglementation bancaire qui fait qu'on ne peut pas faire des choses. Et donc, ça, vraiment, nous, on avait fait des propositions aussi sur les primes rénov, parce que comme il y a la loi de finances qui régulièrement change la nature des travaux, change le montant de la prime,
absolument.
Donc sanctuariser cette prime,
la pérennisation.
Une fois qu'on l'a votée, et il faut la voter au moment des travaux, il faudrait la connaître au moment des travaux, et ça c'est vraiment la charge des AMO, des partenaires comme Elio ou le réseau FER qui donne des informations. Une fois qu'on l'a jusqu'au bout, même si on ne fait pas les travaux dans l'année après.